Bonsoir et bienvenue sur Radio Galère pour une nouvelle émission d'Ecoforum. Nous serons en direct ce soir de 19h à 20h et l'émission sera rediffusée demain, jeudi 8 avril, de 9h à 10h. Nous avons ce soir Suzy Le Gille comme animatrice avec moi-même, Corentine Guilloton, et deux invités, Paul-Antoine Gomez et Louise Anne-Roy. Ils sont tous les deux de la Réserve des Arts et je vais vous laisser vous présenter.
Bonjour, enchantée, je suis Louisanne, donc je suis responsable de l'antenne sud de la Réserve des Arts. J'ai un profil de designer spécialisé dans les alternatives urbaines, donc plutôt penser à de nouvelles méthodes et d'autres méthodes, surtout de faire la ville, de faire l'urbain, de faire avec les gens. J'ai intégré la Réserve des Arts en 2016, d'abord à Pantin, en tant que responsable des partenariats. Et lors des 10 ans de l'association, on a décidé d'ouvrir une antenne en région sud. Et donc, je suis arrivée à Marseille en juillet 2019 pour ouvrir la grande halle de la Réserve des Arts. Et j'ai été rejointe par Paul officieusement, on va dire, septembre 2019, et officiellement en mars 2020. Et je laisse la parole à Paul.
Bonsoir, donc Paul Gomez, je suis régisseur du lieu La Grande Halle de la Réserve des Arts à Marseille. Alors moi, je viens de l'architecture et scénographie. Donc nos chemins se sont croisés avec Louisanne quand je faisais une alternance au MUCEM. J'étais en régie d'exposition, chargé de tout ce qui est régie d'exposition. Et en fait, on se posait beaucoup la problématique au MUCEM de la seconde vie des scénographies. Donc où vont toutes les scénographies en fin d'exposition, sachant qu'il y a quand même des budgets importants dans ce genre d'exposition et que toute cette matière, plutôt qu'elle parte à la benne, il y aurait d'autres choses à imaginer. Donc nos chemins se sont croisés dans ce contexte-là avec Louisanne. Et elle m'a parlé du projet de la Réserve des Arts et donc qu'elle cherchait du monde pour monter l'antenne sur Marseille. Et donc j'ai rejoint l'aventure comme ça.
Au début du confinement dernier, quand même.
C'est ça. Enfin, même avant.
Avant, oui.
Avant, puisque le projet devait se monter donc en septembre 2019. Ensuite, nous, on devait avoir le local. Il y avait quelques petits travaux à effectuer. On était aussi en recherche de subventions et tout ça. Donc moi, j'ai un peu travaillé sur l'antenne parisienne, enfin à l'association à Pantin de la Réserve des Arts, ce qui était quand même intéressant pour se former sur une plus grosse échelle. Et donc finalement, on devait ouvrir le 1er avril, juste avant le premier confinement, puis ça a été repoussé un petit peu, mais voilà, on est là.
Super, merci beaucoup pour cette introduction très intéressante. Moi aussi, je rappelle, bon, maintenant, peut-être ceux qui nous écoutent toutes les semaines savent que je suis archi aussi, donc on a ce point commun et surtout le réemploi en fait, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que ça rentre dans nos intérêts à la Maison de l'écologie, parce qu'avec Corentine on est à la Maison de l'écologie Provence et donc on fait de la sensibilisation à l'environnement et donc c'est pour ça qu'on vous a invité ce soir, c'est parce que ça rentre dans nos centres d'intérêt et l'émission Ecoforum s'oriente aussi autour de l'environnement. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que vous pouvez rapidement peut-être nous expliquer un petit peu l'histoire de la Réserve des Arts Paris et puis pourquoi vous avez décidé de fonder la Réserve des Arts Marseille ?
Donc la Réserve des Arts, c'est une association qui a été fondée en 2008 par deux femmes, Jeanne Granger et Sylvie Bétard, qui travaillaient toutes les deux dans le secteur culturel, dans un lieu qui s'appelait l'espace Crashberg. Et Crashberg est un artiste brésilien qui travaillait sur la question de la déforestation. Il avait une pratique artistique qui était vraiment liée à l'art et l'écologie. Et à force de faire des rencontres sur ces enjeux-là, en plus d'une très belle rencontre qui est celle de Matters for the Arts, qui est une association new-yorkaise qui a été fondée dans les années 80 par les artistes en réponse à un besoin assez simple, que la ville était sale et que pourtant elle regorgeait de ressources. Et donc l'idée, c'était vraiment de se dire, on va nettoyer les villes de New York et en parallèle de ça, on va soutenir des activités plutôt pédagogiques. Mais c'est ce qui a inspiré les deux fondatrices de l'association. Et le constat est assez simple, c'est qu'en fait, d'un côté, on a des entreprises et des institutions culturelles qui ont des activités économiques, qui sont productrices de déchets, avec des guillemets. C'est des rebuts de matières premières, donc du bois, du métal, du verre, du textile, etc., qui partent malheureusement à l'enfouissement ou à l'incinération, alors que ça pourrait resservir à d'autres. Et ces autres, ce sont les professionnels du secteur culturel. Donc l'idée, c'est d'encourager des associations locales, des intermittents du spectacle, des professionnels indépendants, des plus grosses structures culturelles aussi, des entreprises aussi qui sont dans la création ou l'artisanat, à éco-concevoir et à éco-fabriquer leurs projets en leur mettant à disposition ces fameux matériaux rebuts. Et donc en 2008, lorsqu'elles font l'association, on a un partenariat avec le Palais de Tokyo qui met à disposition ses sous-sols une fois par mois et elles stockent dans leur cave d'appartement. Et puis petit à petit, le projet a pris énormément d'ampleur puisqu'aujourd'hui, il y a une antenne qui est à Paris qui fait à peu près 130 mètres carrés, un entrepôt qui est à Pantin qui lui fait 3000 mètres carrés avec une trentaine de salariés qui travaillent au quotidien pour la structure. Et donc nous, on a commencé à travailler sur le projet suite aux 10 ans de l'association, en se disant « Ok, c'est un projet qui est innovant et qui est ambitieux. Comment on continue à être toujours innovant, malgré le fait d'avoir à l'époque 10 ans et puis maintenant 12 ? Comment on reste à la pointe de cette innovation ?» Et s'est posé notamment la question de l'essaimage, aller sur de nouveaux territoires. Et pour nous, la région sud, c'était une évidence parce que y a énormément de... Alors, en temps autre, normalement, il y a beaucoup de festivals. Il y a toujours et encore maintenant énormément d'accueils de tournage. Et puis, il y a de plus en plus de structures culturelles qui se développent. Il y a de plus en plus d'artistes qui viennent s'installer sur la région sud. Et moi, à titre très personnel, j'étais de hier et donc j'avais envie aussi de pouvoir développer sur le territoire un projet qui, pour moi, fait sens et était cohérent.
Merci pour l'historique. Et comment toi, tu l'as peut-être déjà dit, mais si tu peux le répéter, comment toi t'en es venu à t'intéresser à ça? Enfin, est-ce que c'est issu d'un parcours personnel ou t'es issu du design? Donc j'imagine que voilà, c'est des centres d'intérêt, mais tout le monde ne s'intéresse pas forcément au réemploi. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ton intérêt et de ton implication dans l'association?
Déjà, moi, j'ai commencé mes études de design parce qu'à la base, je voulais faire des décors de cinéma. Donc, j'ai fait un premier stage sur un gros tournage où j'ai passé beaucoup d'heures à fabriquer plein de petites choses avec beaucoup d'attention. Et puis, à la fin du tournage, j'ai vu les bennes arriver et je me suis dit « Ouh là là, mais tout ce travail, ce dur labeur qui part à la poubelle ». Donc je pense que ça a été une première graine. Et puis après, pendant mes études, je travaillais, j'ai grandi au Maroc et j'ai eu la chance de travailler avec une architecte qui s'appelle Salima Naji, qui travaille sur la question des architectures vernaculaires de terre. Le vernaculaire, c'est plein de choses, mais notamment faire avec ce qu'on a sous la main et transmettre beaucoup de compétences. Et du coup, ça m'a encouragée à re-questionner mon rôle en tant que designer. Sauf que voilà, la construction en terre et puis en plus tout ça sans être architecte mais en étant designer, c'était compliqué pour moi de me le réapproprier. Donc à l'époque, je suis en fin de diplôme, on est en 2016, donc je me suis dit ok, comment en Ile-de-France je fais avec ce que j'ai sous la main, c'est quoi mes compétences, qu'est-ce que j'ai à transmettre? Et finalement, ce que j'avais sous la main, c'était des déchets, on a plein de poubelles, et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai découvert la réserve des arts qui existait déjà depuis quelques années, et j'ai rejoint le projet pour m'y plonger pleinement.
Pleinement à temps plein, quoi.
Ouais, j'ai mis un peu de temps, mais là maintenant, ouais, à plus que temps plein.
Plus que temps plein, c'est un métier de tous les jours, j'imagine. Et toi, Paul, même question, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi?
Moi, comme je disais, je viens de l'architecture. Après, j'ai fait le constat pendant les études d'architecture qu'on nous ouvre plus à s'ouvrir à vraiment de nombreuses disciplines pendant les études et qu'au final, le métier, j'avais l'impression de me refermer un peu plus dans un travail d'agence qui était plus loin de la matière et plus loin de ce qui m'intéressait moi. Donc c'est pour ça que j'ai assez rapidement changé d'échelle j'aimais bien aussi de voir les choses concrètement se fabriquer. Donc dans la scénographie, on voit plus concrètement du dessin à la construction et du coup du travail de la matière et l'évolution de cette matière qui quelque chose de brut vient être transformé et vient tout de suite répondre à un usage ou répondre à un besoin, etc. Donc c'est comme ça que j'ai un petit peu bifurqué. Et j'ai fait pas mal de stages de construction, des chantiers participatifs. J'ai fait un petit stage aussi qui m'a quand même assez ouvert l'esprit aussi avec, chez Patrick Bouchain pendant mes études. Donc qui est voilà, aussi dans le faire avec peu et dans l'économie de matière, dans le faire avec la matière qui est sur place, faire avec l'existant aussi. Et puis voilà, j'ai fait une spécialisation en scénographie qui m'a amené donc à faire de la régie d'expo au MUCEM et du coup à être à voir de plus près la construction des scénographies d'exposition, donc dans ce cas-là, et à réfléchir, ben en fait toute cette matière-là, qu'est-ce qu'elle peut devenir derrière. Et effectivement, voilà, on sait que dans le secteur culturel, ben, on a beaucoup de professionnels et d'étudiants qui souvent sont en demande de matière, sont en demande de pouvoir construire avec peu finalement. Et que effectivement, c'était un beau projet quand Louisanne en a fait la présentation, d'arriver à faire que les déchets des uns redeviennent matière pour créer pour les autres acteurs.
Et du coup, Louisanne, tu as parlé de l'équipe à l'entrepôt de Pantin, mais par contre, de qui se compose l'équipe à Marseille? De qui ou combien vous êtes?
Alors, donc sur les 3000 mètres carrés, ils sont 30. Nous, sur 850, on est deux salariés, donc Paul et moi, aujourd'hui présents. On a actuellement en ce moment deux missions de service civique, donc Robin et Marius, j'en profite pour les saluer. Et on a eu de très belles personnes aussi qui sont passées en stage, donc Jeanne, Alice, Nina, voilà. Mais petit à petit, l'idée, ça sera de pouvoir, on espère assez rapidement, étoffer cette équipe salariée et puis offrir des opportunités, toutes ces missions de service civique ou de stage. Et c'est des personnes qui viennent nous voir en nous disant on a envie d'en être. Et on essaye de trouver voilà, comment eux peuvent nous accompagner parce que c'est un lourd projet. Et à côté de ça, comment on peut arriver à co-construire ensemble et se nourrir réciproquement.
Vous fonctionnez aussi avec des bénévoles, j'imagine, ou...
Alors, pas trop. Ouais, je peux en profiter pour les remercier aussi. Ça a été surtout, donc comme le disait Paul, on aurait dû ouvrir le 1er avril 2020. On était confinés donc, comme tout le monde. Et donc à la sortie du premier confinement, il y a eu un super engouement de la part de plein de bénévoles qui sont venus nous aider. Donc pour le coup, à l'époque, il n'y avait que Paul et moi et Robin de temps en temps. Mais on a eu plein de bénévoles qui nous ont donné un gros coup de main pour aménager les 850 mètres carrés, monter les racks, construire du mobilier qui permettait de recevoir les matériaux. Aujourd'hui, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, donc on est obligé de limiter le nombre de personnes en présence dans l'entrepôt. Mais si, totalement, c'est aussi une manière de s'impliquer pour l'association que nous, on aime beaucoup, parce que ça nous permet aussi de sensibiliser les acteurs et de leur, voilà, de leur montrer qu'est-ce que l'économie circulaire à la Réserve des Arts et comment ça fonctionne.
Est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse de l'entrepôt et les conditions d'accès à l'association? C'est une association, hein, et on peut y adhérer, j'imagine. Comment on y adhère?
Alors, sur l'adresse, donc on fait quand même de l'économie circulaire dans l'impasse du pétrole, ce qui est assez intéressant. Et donc, c'est 10-12 impasse du pétrole dans le 15e, à proximité du métro Bougainville ou Capitaine Jazz. C'est aussi assez accessible en bus, je ne sais plus exactement les numéros de bus, mais sur le site c'est assez visible. Et pour adhérer à l'association, donc nous on est réservé aux professionnels et aux étudiants du secteur de la culture, de la création et de l'artisanat. Donc pour pouvoir adhérer, il faut justifier un statut pro ou étudiant dans ces secteurs-là. Et donc c'est une adhésion qui est valable un an de date à date. Elle se fait en ligne, il faut remplir un petit formulaire. Et ensuite, elle permet effectivement de venir acheter des matériaux. Donc les statuts, ça peut être un individuel, intermittent du spectacle, artiste, auteur, auto-entrepreneur dans le milieu de la culture et de l'artisanat. Ça peut être une association du secteur culturel, ça peut être une institution culturelle, une entreprise. Voilà, ou salarié d'une entreprise culturelle également. Donc tout est bien détaillé sur le site. Voilà.
Je rappelle que les archis, du coup, font partie du secteur de la culture, ce qu'on oublie régulièrement, parce que les étudiants en école d'archi, les écoles d'archi sont gérées par le ministère de la culture. Oui. Donc, Je lance un appel aux étudiants des écoles d'archi si jamais vous voulez acheter des matériaux pour faire vos maquettes ou autres, je ne sais pas quoi. Vous pouvez aller à la réserve des arts. Et pourquoi ce choix d'être réservé ? Enfin, est-ce que c'est un choix déjà d'être réservé aux professionnels ? Et pourquoi tout un chacun pourrait, enfin, ne peut pas du coup venir acheter des matériaux chez vous ?
Alors oui, c'est un choix qui a été fait du coup par les deux fondatrices à la base de s'orienter vraiment vers ce secteur-là, dans une idée de soutien à ce secteur-là, et aussi de partir d'un constat qu'en fait, c'est les professionnels du secteur de la culture et de la création qui auront le savoir-faire pour transformer la matière, pour la revaloriser, qui, on le rappelle, voilà, c'est ce qu'on récupère, même si voilà, c'est des rebuts, etc., mais c'est quand même à la base un déchet. Et donc, les personnes du secteur de la culture et de la création auront l'œil et le savoir-faire pour revaloriser et retransformer cette matière derrière. Et je pense qu'il y avait peut-être d'autres raisons aussi.
Non, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de la partie plateforme logistique de réemploi, donc la récupération et la vente de matériaux. C'est une partie plus ou moins petite de nos activités. L'idée, c'est vraiment d'être solidaire de ces étudiants et de ces professionnels parce que, alors, pour la partie étudiants, c'est quand même les professionnels de demain. Donc, si on les sensibilise dès maintenant à la question de l'économie circulaire, de la gestion des ressources, on se dit qu'a priori, quand ils seront dans le monde du travail, ils auront les bons réflexes. Sur tout ce qui est professionnel, c'est vrai qu'il y a un enjeu de soutien et d'accompagnement à ces pratiques-là, aussi pour qu'ils puissent mieux vivre de leur création. Donc, c'est pour ça qu'on vend les matériaux à prix solidaire. Alors, j'ai pas les chiffres de maintenant et je pense que ça doit être 12 fois pire. Je sais qu'en Île-de-France, avant le Covid, hein, 75% des artistes étaient au RSA. Donc, il y a une vraie mission de pouvoir les accompagner et les professionnaliser dans cette voie-là, parce que je pense que au-delà de la tendance que peut y avoir sur les pratiques éco-responsables, etc., c'est aussi des modes de fabrication qui sont bien plus durables et où on peut aller plus loin et penser plus durablement. Et donc, au-delà de notre plateforme logistique de réemploi, on a tout un volet formation. À Marseille, il se développe en partenariat avec ICI Marseille, donc nos voisins de la réserve des arts. C'est une formation à l'éco-conception et à la fabrication 2.0. On a à Marseille un volet d'accueil, enfin de mise à disposition d'ateliers. Donc l'idée, c'est de pouvoir éco-fabriquer au sein de l'espace de travail. J'en profite pour faire un petit coup de communication. Mais en ce moment, on a lancé les candidatures pour l'accueil en résidence. Donc Paul en parlera après un peu brièvement, mais voilà, il vous expliquera en quoi ça consiste. Et on a aussi des petits ateliers. L'idée, c'est de pouvoir faire de l'accueil d'école, des workshops, nous fabriquer du mobilier en interne. Et cette version-là, c'est une version test de quelque chose d'un peu plus conséquent qu'on aimerait déployer comme on l'a en Île-de-France. En Île-de-France, il y a 300 mètres carrés d'ateliers liés, si je ne dis pas de bêtises, où on peut travailler le bois et le cuir et le textile principalement. Et l'idée, c'est de pouvoir louer des espaces à la journée, à la demi-journée, au sein de l'entrepôt. Et Paul, peut-être si tu veux compléter sur les résidences.
Sur les résidences, du coup, j'en profite aussi pour dire qu'il reste des places. Donc, on a fait un appel à candidature pour l'occupation des ateliers qu'on met à disposition. Donc, si vous voulez candidater, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux ou voilà, il y a un petit appel à candidature qui est publié.
Quel est votre site internet ? L'adresse, c'est quoi ?
Alors, c'est lareservedesarts.org. Mais l'appel a été lancé sur l'Instagram Marseille, donc la réserve des arts Antenne Sud, Instagram. Et sinon, vous pouvez envoyer un mail à antennesud@lareservedesarts.org pour candidater. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a trois petits espaces d'atelier. On fait de la mise à disposition d'espace donc gratuitement. En contrepartie, on demande une implication dans la vie associative qui prend forme d'un samedi toutes les 3 semaines pour nous aider sur la vie du lieu, sur inventorier, ranger, etc. Et à l'issue des 3 mois de résidence, on fait un petit événement, donc une sortie de résidence, une exposition qui permet aux artistes résidents d'avoir un peu de visibilité. Et voilà, de s'impliquer dans cette résidence.
Vous avez eu une sortie de résidence il n'y a pas longtemps, il me semble, enfin, à l'émission qu'on devait faire il y a 3 semaines, qui a eu un petit imprévu. Comment ça s'est passé? Comment l'ont vécu les artistes d'être pendant 3 mois chez vous? Est-ce que ça a été productif pour eux?
Sur la sortie de résidence en elle-même, ça a été assez chouette. C'est un des temps, et y en a pas, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, hein, à terme on espère en avoir plus, mais le contexte fait qu'en plus c'est compliqué. Mais en tout cas c'est un des temps où on est ouvert au grand public, donc nous ça nous permet d'aller un peu à la rencontre des habitants ou de personnes qui ne sont pas forcément issues du secteur culturel, parce que la question du réemploi finalement ça la concerne tout le monde, hein, ça peut concerner quelqu'un qui a envie de changer son frigo, quelqu'un qui n'a plus envie de ce t-shirt, donc quel est le cycle de vie de ce qu'on consomme et ou de ce qu'on fabrique. Donc pour nous, c'est l'occasion d'ouvrir nos portes. On a eu à peu près 120 personnes sur la demi-journée. Donc c'est chouette, ça prouve que ça a fonctionné. Et après, sur la question des artistes, c'est l'idée de cette mise à disposition d'ateliers, c'est pouvoir travailler au sein des matériaux. Et donc, du coup, toutes les trois, elles étaient sur des tests de nouvelles pratiques, de la recherche, etc. C'est l'occasion de montrer son travail et de voir comment c'est reçu. Je pense que Paul va mieux compléter que moi, mais il y a eu des belles opportunités aussi derrière qui se sont créées, notamment pour Alix.
L'idée, c'est que c'est quand même assez inspirant de travailler dans ce genre de lieu et d'être vraiment au cœur de la matière et de pouvoir effectivement expérimenter des choses diverses et même de prendre une planche, si ce n'est juste tester quelque chose. Ça permet ce genre d'expérimentation. Et donc toutes les trois, elles ont fait évoluer aussi leur travail grâce à ça et travailler sur différents supports, tester de nouvelles choses. Et c'était aussi pour elles une opportunité de montrer leur travail et d'ensuite enchaîner sur d'autres résidences. L'idée, c'est aussi qu'on essaye de pas, d'avoir un mini suivi derrière aussi et que si ça peut continuer et si on peut les aider d'une manière ou d'une autre à continuer leur travail, à montrer ce qu'elles font.
Parce que du coup, elles restent 3 mois dans les ateliers, mais après, elles s'en vont et doivent trouver un autre endroit pour continuer. Comment ça se passe?
Ouais, voilà. L'idée, c'est que c'est pas, on fait pas de la location d'espace pour un atelier de travail. C'est vraiment une période de résidence sur un projet, qu'on favorise d'être en lien quand même avec le réemploi et le travail de la matière. Et du coup, c'est pour elles l'opportunité de faire évoluer leur pratique artistique et de tester de nouvelles choses et de le montrer sur une période. Là, elles ont été hyper productives. Du coup, ça a donné lieu à une grosse exposition et c'était intéressant d'aussi investir le lieu. Et vraiment, elles avaient fait un parcours d'expo qui les œuvres se mêlaient au sein de la matière. Et du coup, c'était assez intéressant aussi de voir la matière brute et la matière transformée aussi dans un même lieu. Donc après, nous, on est vraiment très libre sur le rendu qui peut se faire à l'issue des 3 mois de résidence. Donc j'espère qu'on aura de nouveaux projets aussi intéressants.
Qu'est-ce qu'elles faisaient, les trois artistes qui étaient en résidence?
Alors du coup, c'était trois profils assez différents. Donc on a Alix Artaud qui est designer-produit à la base. Elle a travaillé à Londres, elle est suisse, elle vient de s'installer à Marseille depuis quelques temps. Et là, on a profité pour pas mal travailler sur de l'expérimentation au niveau du tissage, de la teinture naturelle. Donc elle a fait de la teinture à base de végétaux ou qu'elle cueillait dans la ville ou ailleurs. Et pas mal aussi de céramique à base de briques récupérées, etc. Il y a Endramé, son nom d'artiste, qui est italienne de Bari, installée à Marseille depuis un petit moment aussi, et qui, elle travaille autour du sang menstruel. Donc c'est un travail assez politique. Elle avait fait un projet qui s'appelait Le Jardin, où elle collectait auprès, c'est un projet participatif, donc elle collectait auprès de personnes menstruées du sang, avec lequel elle demandait un végétal et un texte. Et donc, à partir de ce végétal et de ce texte, elle produisait des collages. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de créer ce jardin, ce jardin-là. Il y avait plusieurs installations différentes, mais je vous invite à aller voir son travail, qui est assez intéressant. Et on avait Maysoon, qui, elle, travaille plutôt sur de la peinture, du pastel. Elle fait aussi pas mal de linogravure. Et un travail assez intéressant aussi sur le corps des femmes. Donc c'était trois trois approches assez différentes, mais qui finalement se sont bien mêlées dans le lieu et aussi à dialoguer entre elles. Enfin voilà, c'était assez riche comme restitution.
Trois médias hyper différents aussi qui représentent un peu peut-être tous les médias que vous pouvez.
Ouais, ce qui était assez intéressant, c'est que c'était pas forcément un travail de la matière à la base, mais qu'elles ont quand même joué le jeu aussi de voir ce qu'il y avait à faire avec les matériaux de la réserve et de s'en inspirer et de faire évoluer leur travail autour de ça.
Après, sur la question des médias, enfin, tu peux en avoir des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui, à la Réserve des Arts, il y a à peu près 60 corps de métiers différents. Donc, il y a des pratiques artistiques, culturelles ou artisanales. Il y en a plein. Effectivement, il y a du tissage, mais tu peux aussi aller plus vers la couture. Et puis, même dans la couture, tu vas avoir ceux qui travaillent le textile et ceux qui travaillent le cuir. Tu vas avoir du travail de sérigraphie, par exemple. Du travail de scénographie, comme du travail de micro-architecture. Enfin, bon, parfois c'est très hybride et tout se mélange un peu, mais ça peut être hyper vaste. Hein. Après, c'est vrai que l'espace, les ateliers font une dizaine de mètres carrés, donc ça contraint un tout petit peu les typologies de métiers qu'on peut accueillir malheureusement pour l'instant. On verra pour la suite de la Réserve des Arts 2 à Marseille.
Juste avant la pause musicale, j'avais une dernière question plus concernant la logistique du coup de la collecte de la matière première. Comment ça s'organise ?
En gros, donc la Réserve des Arts est un prestataire de gestion de déchets pour les entreprises et les institutions culturelles du territoire. L'idée, c'est d'identifier leurs besoins. Donc, y a deux manières de faire. Soit on est sur un besoin régulier, je suis un atelier de fabrication et j'ai des poubelles ou des bennes qui aujourd'hui sont présents et dans lesquelles je mets mes rebuts d'activité. L'idée, c'est de remplacer ces poubelles et ces bennes par des bacs de la Réserve des Arts ou déterminer un espace de stockage. Et nous, on détermine quels sont leurs besoins. Ok, il faut qu'on passe toutes les semaines. Ok, il faut qu'on passe toutes les trois semaines. Finalement, on peut passer que tous les trois mois. Enfin, l'idée, c'est d'avoir une prestation sur mesure en fonction des besoins des espaces de fabrication, des entreprises, des industries, etc. Ou l'autre volet, ça va être toute la partie événementielle. Je suis un lieu d'exposition. On peut le parler du Muséum tout à l'heure. Le Muséum démonte une exposition. Quels sont les besoins? Est-ce qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 10, 20 camions? Quelle taille de camion? Combien de personnes on va mobiliser sur le projet? En fonction de ça, nous, on établit un estimatif de coût. Le réemploi, c'est de l'emploi, c'est que des gens qui vont travailler. Donc, y a le coût potentiellement du conditionnement ou pas, le coût du chargement, le coût du déchargement. Et puis derrière, ce que nous, on appelle le processus de réemploi. Donc, ça va être le tri, l'inventaire, la valorisation des matériaux pour qu'on puisse être garant du réemploi de toutes ces matières. L'idée, c'est de faire une prestation sur mesure en fonction des besoins.
Après, on fonctionne aussi avec du don adhérent, donc les personnes qui sont adhérentes à l'association peuvent déposer du matériel dans la limite d'une quantité, d'un volume. C'est jusqu'à 300 kilos et 200 kilos et 3 mètres cubes. Donc dans l'idée, si un adhérent a besoin de... tel matériau dont je me sers plus, est-ce que c'est valorisable et tout ça, donc ils nous envoient un petit message avec quelques photos et viennent déposer tout ça, donc jusqu'à la quantité dont je parlais, ils déposent et nous on s'occupe de tout. Au-delà de cette quantité, on demande de nous aider un petit peu bénévolement à justement ce processus de tri, d'inventaire, tout ça. Donc voilà, ça fonctionne comme ça.
C'est assez flexible quoi, globalement. Voilà. On y reviendra. C'est la l'heure de la pause, du coup. Je ne sais pas qui a choisi le titre, mais je vais te laisser dire le nom et puis l'artiste et puis introduire pourquoi un petit peu tu as choisi ça.
Oui, alors j'ai choisi un titre de Sino Siloé. Donc c'est Louis et Azu, si j'écorche ton prénom. C'est une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Bas Côté et qui, je trouve, est assez parlante sur notamment sur les paroles. Moi, j'avoue, elle me touche beaucoup. Et puis c'est un ami, donc c'est toujours chouette de faire découvrir le travail des copains. Donc je vous laisse écouter.
Île-de-France. commencé un an déjà, je l'ai pas sorti, ouais je voulais pas que les darons croient pris dans un long trépas. Pourtant c'était la version bêta de ces textes à venir que je gratterai seul chez moi durant mes après-midi, ouais. Seul angoissé par les jours à venir, ou plutôt par les tâches que ces jours m'amènent. Putain, j'ai la situation, putain, je vais pas la lâcher, putain, je fais rentrer la monnaie, putain, plus besoin des darons, j'ai l'impression que je me dérobe. Je préfère souffrir plutôt qu'accepter que mes croyances premières se résorbent et que je sais plus vers qui me tourner. Est-ce une souffrance ou un caprice que je noie dans ce god d'Anis? Suis-je dans l'enfance quand je remise mes déboires dans la tête d'un ami? Voilà les questions que je me pose chaque jour durant mon quart d'heure de pause. Je gratte avec longue cette erreur de parcours, puis jette mes souhaits dans une poubelle rose. Tout quitter, mais pour aller où? Pour aller dans la case d'à côté, me saborder, me la jouer taré fou. Ça ferait bien trop chier la remet. 28 mesures sur la ligne de départ, c'est de mauvais augure, ouais, ces morceaux épars ne veulent pas de soudure, se renforcent dans les carrés. Mes décisions pures sont de plus en plus rares. Les bifurcations se foutent de nous, et les points de rupture sont les sortes d'écrou. Y'a que mes regrets qui me portent des coups. Mon petit confort est mon seul verrou, où les jours se répètent, sans variation, et j'ai mis dans ma lettre un peu d'abandon, toujours en quête d'un bouquet de chardon. Faites ma naissance dans la barque de Caron. Les bifurcations se foutent de nous, et les points de rupture sont les sortes d'écrou. Y'a que mes regrets qui me portent des coups. Mon petit confort est mon seul verrou, où les jours se répètent, sans variation, et j'ai mis dans ma lettre un peu d'abandon, toujours en quête d'un bouquet de chardon. Faites ma naissance dans la barque de Caron. L'émotion, et je vois que la seule loi, ben c'est l'érosion. Putain, dans ma voix, si peu de dévotion. Ils perdent mon foi par l'empée de potion. Encore un soir, à la Vinsanao. Un soir de plus où je devine le chaos. Méditant sur nos relations, caressant un semblant de fardeau. Je suis un Martine, Éden inversé. Jeune bourgeois lettré, c'est un peu lassé. Dans l'attente de la réponse, dans le verset. La pesanteur veut me chasser. Et les gosses ne savent pas que les contrats sont des collets discrets. Deuxième naissance en contraction. 1002 par mois, on finit au frais. Ouais, ma part du rêve, je crève d'être à part. Dans un petit appart au bord du réel, j'en ai plus que marre du règne. Du temps qu'il y a la santé, du temps qu'il n'y a pas de danger. Du attends, attends, autant ne pas tenter le pas de côté, restons sur le bas côté. En attendant, j'attends la pause café. On y lâchera tous une glosse salée sur la patronne avant qu'elle passe nous voir et qu'elle nous sermonne. Rappelle nos devoirs, un peu de saccharo sur la touillette. Sanglots étouffés dans les toilettes, 90 centimes la canette. Y'a que la toquante qui soit honnête. J'ai l'impression qu'on m'invente un échec. Ouais, je crois que cette pression est en train de me rendre chèvre. Le réveil fourni, c'est les ondes qui hébètent. Journal audio, j'appuie sur rec. J'ai l'impression qu'on m'invente un échec. Ouais, je crois que cette pression est en train de me rendre chèvre. Le réveil fourni, c'est les ondes qui hébètent. Journal audio, j'appuie sur rec. Les bifurcations se foutent de nous. Et les points de rupture sont les sortes d'écrou. Y'a que mes regrets qui me portent des coups. Mon petit confort est mon seul verrou. Où les jours se répètent, sans variation, et j'ai mis dans ma lettre un peu d'abandon. Toujours en quête d'un bouquet de chardon. Faites ma naissance dans la barque de Caron. Les bifurcations se foutent de nous. Et les points de rupture sont les sortes d'écrou. Y'a que mes regrets qui me portent des coups. Mon petit confort est mon seul verrou. Où les jours se répètent, sans variation, et j'ai mis dans ma lettre un peu d'abandon. Toujours en quête d'un bouquet de chardon. Faites ma naissance dans la barque de Caron.
Retrouvons après cette petite pause musicale et je voulais rebondir sur ce que tu disais juste avant la pause musicale, Paul, par rapport à la revalorisation du coût de la matière première. Et je voulais savoir sur quels critères vous vous basez pour dire ça on peut le revaloriser et ça on peut pas.
Eh bien, c'est toujours un peu du feeling et c'est pour ça aussi que je disais qu'on fait confiance aux professionnels du secteur de la culture et de la création pour, parce qu'eux ont le savoir-faire et l'œil de savoir, bah, ça en fait, moi je saurais quoi en faire dans mes créations et je sais que ça pourrait me servir à telle chose ou telle chose. Et parfois, on est assez surpris sur ce qui est valorisable ou pas parce qu'il y a des choses improbables qui finalement servent à des créations. Alors après, c'est toujours une question de timing, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'on a du stock et que nous, bah voilà, on peut stocker pendant un moment. Et puis le jour où telle personne a tel projet qui correspond à telle matière, ben bingo, ça fait l'affaire. Donc c'est toujours un peu compliqué de prévoir à l'avance, mais en tout cas, voilà, c'est un peu du feeling et voilà, de savoir, ben ça, oui, ça peut servir à des créations ou non. Et du coup, je rebondis aussi pour revenir sur la question des valoristes, parce que donc quand on fait des collectes, nous, on embauche à la mission des professionnels du secteur de la culture et de la création qui vont nous aider à aller collecter toute la matière et derrière à la revaloriser, à la faire tout ce processus de réemploi, inventorier, peser, enlever s'il faut des agrafes, des vis, etc. Et du coup, effectivement, c'est d'un côté, ça leur permet d'avoir des missions de travail ponctuelles, voilà, de créer aussi du réseau parce que on rencontre beaucoup de gens. Enfin voilà, si c'est sur un démontage d'exposition, sur un événement, sur quoi que ce soit, puis aussi les valoristes entre eux, de les mettre en lien, etc. Et aussi parce que voilà, comme je disais, ils ont ce savoir-faire et cet œil-là aiguisé pour au niveau de la matière et de savoir, ben en fait. Ah, peut-être que sur place, on n'avait pas prévu de récupérer telle chose, mais y a tel matériau en quantité dont la personne qui est chargée du démontage avait prévu de se débarrasser. Et en fait, le valoriste va dire non, ça, on va le récupérer aussi. Ou pour, sur une prochaine collecte, etc., de dire, d'avoir ce savoir-faire-là.
Vous travaillez avec beaucoup d'institutions culturelles marseillaises qu'on connaît. Qu'on peut connaître.
Déjà, c'est le début du projet. Hein. Donc, y a à peu près, je dirais, 50% de notre temps qui est dédié à la sensibilisation. S'attaquer à la question des déchets, c'est un vaste sujet puisqu'on a rarement l'habitude de mettre la tête dedans. Donc, on s'en rend rarement compte. Et d'un côté de la gestion, hein, comment on gère mes déchets et où finissent-ils, enfin, nos déchets. Et de l'autre côté, combien ça coûte. Et donc, y a un gros travail de sensibilisation et d'accompagnement sur ce sujet-là. Le MUSEM a été la première structure culturelle à nous faire confiance sur ce sujet. Et petit à petit, y a des belles choses qui se mettent en place. Là, on est en train de faire un gros travail avec les rencontres de la photographie à Arles. On l'espère aussi sur la question du réemploi de leurs éléments de scénographie à la fin du festival, en espérant qu'il ait lieu, mais on y croit fort. Mais surtout, un gros travail d'accompagnement à l'éco-conception, donc de savoir quels sont leurs process qui sont déjà mis en place, parce qu'il y a des choses très très intéressantes qui existent déjà au sein de leurs équipes, et puis de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui l'est peut-être un peu moins, et comment on peut optimiser l'éco-fabrication de leurs projets. On a quelques tournages sur lesquels on a eu la chance de travailler, et quelques entreprises. Alors après, certaines, voire la plupart des structures avec lesquelles on travaille nous demandent et nous engagent à un contrat de confidentialité pour plein de raisons, et nous ça nous va très bien parce que on travaille pas mal avec l'événementiel et le luxe, alors moins sur Marseille mais beaucoup sur l'Île-de-France, et l'idée c'est de pas pousser à la consommation sur les matériaux. Donc, peu importe d'où ça vient, du moment que c'est de la matière première et que tu as envie de fabriquer avec, on n'a pas la nécessité de savoir quelle est la provenance. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour réduire la consommation de matière première.
Et j'en profite parce que j'avais lu sur votre site que vous faisiez des formations. Tu as un petit peu commencé à parler de l'éco-conception, de la sensibilisation à tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, toi ou Paul ?
Ouais. Donc en gros, c'est une formation qu'on développe avec ICI Marseille. C'est une formation qui dure 35 jours. Donc à peu près environ 3 mois. Elle est dédiée aux personnes qui sont demandeurs et demandeuses d'emploi. Mais l'idée, c'est quand même de venir avec un projet et ou une compétence pratique en termes de création et de conception, ou alors au moins avoir une idée. Je veux fabriquer un t-shirt éco-responsable, sans forcément savoir coudre, mais se dire ok, comment je vais pouvoir développer une unité de production de fabrication d'un t-shirt avec du chanvre fabriqué localement dans le 15e arrondissement de Marseille par exemple. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner d'abord sur le volet éco. Donc la réserve des arts va les former à qu'est-ce que l'économie circulaire, qu'est-ce que l'éco-conception, qu'est-ce que c'est que la matière première, qu'est-ce que c'est que le réemploi de matière première dans de la fabrication. On a un gros volet aussi qui est porté par la réserve des arts d'entrepreneuriat culturel, on va dire. Donc comment on développe ces fameux projets et comment on en vit, ou en tout cas on essaye d'en vivre au maximum. Et puis ICI Marseille porte toute la partie fabrication, donc le faire, comment on optimise mon plan de calepinage pour la découpe laser CNC, etc., pour produire le moins de chutes possible et donc tendre vers de la fabrication zéro déchet par exemple. Comment l'impression 3D va me permettre d'imprimer des des pièces qui vont permettre de réparer des objets, des machines, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de lier la compétence du faire que peut avoir ici Marseille à les compétences de réemploi et d'économie circulaire et aussi de réseau de la réserve des arts.
Je précise le mot calpinage qui peut ne pas être hyper clair pour tout le monde, qui est le dessin un petit peu des, comment dire, un calpinage de briques ou un calpinage de carrelage, c'est le dessin de comment on va les assembler. Je ne sais pas si c'est une bonne définition.
Ouais. Tu peux un plan technique.
Un plan technique, ouais, pour économiser en fait finalement la matière première, parce que quand on fait de la découpe laser, ça va être sur un format donné. Et puis, on ne va pas mettre au milieu ce qu'on va découper pour éviter de... Bon, ça paraît logique, hein, mais c'est vrai que pour avoir fait un peu de découpe laser, ce n'est pas toujours si logique que ça, finalement, quand on le dessine sur le logiciel. Donc, voilà, bon, ça, c'est un calpinage, c'est un vocabulaire un petit peu précis, mais je précise parce que, quand même, ce n'est pas évident pour tout le monde.
Peut-être un patron. Par exemple, un patron de ouais. d'un vêtement, ça parle un peu plus, mais c'est le même principe.
Ouais. Et quelle est la journée type à l'asso ou la semaine type? C'est une question un peu compliquée, hein, mais est-ce qu'il y a une journée type ou une semaine type?
Oula, oui et non. Bon, on va dire qu'il y a des petites routines qui est assez quotidienne, mais après, chaque journée est assez différente en fonction des adhérents qui viennent, en fonction des arrivages de matériaux, en fonction de... du stock qu'on a en fonction de l'inventaire qui doit être voilà. Après moi je suis régisseur du lieu, donc l'idée c'est vraiment de aménager et réaménager en permanence en fonction des arrivages, en fonction qu'est-ce qu'on doit mettre en rayon. Donc voilà, la matière arrive, elle est pesée, inventoriée par typologie de matériaux. Donc on rentre tout ça dans notre petit logiciel, et ce qui nous permet ensuite d'avoir des bilans en termes de... Parce que les matériaux sont vendus au kilo pour la plupart, et donc par typologie de matériaux. Et donc d'avoir des bilans en termes de tonnage de matériaux. Donc là, on a déjà, je crois, combien?
Décembre 2020, on était à peu près 41 tonnes de matières premières collectées.
Voilà, donc...
dans l'entrepôt.
Ouais. Ouais. Ça fait quand même un peu de matière à porter avec nos petits bras. Donc c'est aussi une des choses qui se passe à laser, de porter, transporter et de fabriquer du mobilier donc pour accueillir tous ces matériaux, de sensibiliser aussi les adhérents qui viennent, de leur expliquer le projet, de les conseiller sur tel ou tel matériau pour leur création, de quoi d'autre. Après voilà, c'est aussi une partie de repérage pour les collectes, d'aller sur place voir quels matériaux on va pouvoir récupérer, de prévoir la collecte, combien de personnes, combien de camions, etc. On va
y aller
aussi. Voilà, donc ça peut être aussi des journées en dehors de l'entrepôt, donc aller sur place, sur les lieux pour collecter, soit pour repérer. Donc après, il y a aussi avec les résidences, on essaye d'avoir un suivi assez régulier, donc de faire des petites réunions entre nous pour organiser à la fois le temps de résidence, mais aussi un peu en amont la sortie de résidence et l'événement qui va avec. Là je parle pour ma part. Et après
Je suis assez d'accord avec Paul, hein. Il n'y a pas de routine. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui est pareille, mais finalement, il y a des choses qui reviennent un petit peu. Mais c'est vrai que ce qui est hyper stimulant et intéressant à la réserve des arts et de manière générale avec le réemploi, en fait, je suis en train de faire, en même temps que je vous parle, je fais la comparaison, mais c'est vrai qu'on ne reçoit pas une fois la même matière. Bah, finalement, les profils des adhérents qu'on reçoit et les potentiels partenaires et partenaires qu'on reçoit, pareil, il n'y en a pas un qui est pareil, donc les besoins ne sont pas les mêmes. Et moi, sur mes journées, ça peut autant effectivement être à la grande halle, recevoir des écoles ou des enseignants qui ont envie de développer un projet de workshop, que aller sur un site faire une présentation de la réserve des arts, identifier faire un audit de quels sont les déchets qui sont produits sur tel site avec telle entreprise et donc essayer de trouver la meilleure solution la plus adaptée pour leurs besoins. Ça peut être aussi c'était il y a 2-3 semaines, je suis allée jusqu'à Grenoble parce qu'on a un beau projet qui a été réalisé d'analyse de stock. En gros, ça fait 25 ans ou 20 ans que le musée dauphinois stocke l'intégralité de ses éléments de scénographie. Donc ça part d'une super bonne intention. Mais la suite, c'est quoi? Et donc c'est un peu aussi toute la réflexion que porte la réserve des arts et son envie d'engager l'économie circulaire dans la culture, c'est de se dire ok, stocker, mais pourquoi, comment? Finalement, c'est un peu comme nous avec nos caves. En fait, j'ai 4 visseuses chez moi. Est-ce que je pourrais pas avoir 4 visseuses pour l'intégralité de mon immeuble? Toute cette question de la mutualisation qu'on se pose de plus en plus, elle doit se faire et elle doit aussi se faire sur le secteur culturel. Je passe un peu du coq à l'âne, hein. On passe de nos journées à la réserve des arts à plus un engagement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de la consommation, qui finalement rattrape la question de la fabrication, notamment sur la mode, on parle beaucoup de la fast fashion et de l'impact que peut avoir nos vêtements à la fois sur l'environnement, mais aussi sur le social, qui fabrique nos vêtements. La culture pourrait très bientôt se faire rattraper aussi par cette mouvance de se dire quand je vais voir une exposition, quelle est la scénographie qui a été fabriquée, où est-ce que ça finit, quel est le choix des matériaux qu'on a utilisé, est-ce que c'est du bois issu de forêts qui vont pouvoir se régénérer après, qu'est-ce que ça devient après. Nous on a Marius en ce moment à la réserve des arts qui travaille à calculer l'impact carbone de la réserve. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'à prolonger la durée de vie des matériaux, il y a un impact carbone ultra positif dans le sens où du coup, on n'en voit pas à l'enfouissement ou à l'incinération de la matière première qui peut continuer à servir. Elle continue à servir, donc on prolonge la durée de vie. Et en plus, on va produire moins de ressources neuves. C'est plus l'heure, j'ai plus les chiffres dans la tête, mais je ne sais plus combien de litres d'eau il faut pour faire un mètre carré de coton. Si on produit moins de coton parce qu'on réutilise, qu'on évite de jeter des fins de rouleau qui sont plus à la bonne couleur, qui sont plus à la tendance pour certains, mais qui finalement pour d'autres vont pouvoir servir, des étudiants pour faire un prototype d'une robe en école de mode par exemple.
Moi j'avais une question concernant ce que vous récupérez. Quelles sont les choses les plus improbables que vous avez pu récupérer?
Alors. Là, dernièrement, on a eu un petit don d'un artisan cordonnier qui fermait boutique. Donc, on a énormément de talons, de formes de chaussures en plastique, plein de choses de cordonnier. Il y a une réelle mémoire parce que je pense que cette personne a travaillé des années et des années dans cet atelier. Donc, il y a une grosse partie d'histoire. Et comme je disais tout à l'heure... Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est quand même un problème. Bon, après, c'est en très, très grosse quantité. Mais voilà, j'ai une personne qui est en alternance en cordonnerie qui m'a dit, mais waouh, là, c'est incroyable. Moi, je veux vous acheter plein de choses. Vous refaites ma journée, là. Je vais passer mon week-end à travailler là-dessus. Et voilà, donc finalement, voilà, y a toujours des gens pour revaloriser cette matière et ça fait des heureux. Et donc, nous, c'est vraiment l'important aussi que ça soit revalorisé derrière, quoi.
Oui, j'allais dire, c'est une aubaine pour les cordonniers qui apprennent, parce que j'imagine que ça doit coûter super cher de se faire un stock neuf comme ça. Je sais pas du tout, parce que je suis pas cordonnière, hein, mais ça doit coûter cher. Et du coup, j'imagine que vous êtes quand même moins cher à la revente qu'en neuf, sinon ça n'aurait pas trop de sens. Enfin, j'espère en tout cas. Mais ça doit être une aubaine. Enfin, en tout cas, s'il y a déjà quelqu'un qui est... Ok, et une autre anecdote là-dessus ou...
Je vais remonter plus loin, mais je me souviens d'un énorme stock de boules à facettes. Et j'adore les boules à facettes. c'était à Pantin, et je pense que ça fait déjà 3 ans.
Et vous n'avez pas fait une fête géante dans l'entrepôt avec...
Si, elles étaient affichées pour les 10 ans de l'association. Enfin, affichées, elles étaient accrochées à l'entrée de l'ancien entrepôt de Pantin. On les avait installées. Et la directrice, Sandrine, je te salue. Je crois qu'ils ont fini par les vendre, mais elle ne voulait absolument pas les vendre. Enfin, c'était vraiment trop beau, ça brillait. Il y avait le soleil qui se reflétait quand il y avait du soleil à Pantin.
Trop disco.
Trop Mais après, du coup, je peux rebondir sur la question des prix. Aujourd'hui, dans notre engagement de soutien au secteur culturel, en gros, on a effectivement décidé de mettre un prix sur la matière première parce que il faut qu'on vive, hein, Paul et moi, il faut qu'on mange, il faut qu'on paye le loyer de la Réserve des Arts, il faut qu'on recrute d'autres gens pour devenir plus grand, plus fort, aller plus loin, avoir un meilleur taux de valorisation, etc. Donc effectivement, ça participe à notre modèle économique. Mais l'enjeu, c'est de rester solidaire au secteur culturel. Donc en général, on est à un tiers du prix neuf. Après, ça va dépendre de la qualité des matériaux, de la quantité disponible aussi. Effectivement, leur originalité, est-ce qu'on sait... Enfin, voilà, après 12 ans d'existence, on sait ce qui est plus ou moins facilement réemployable. Et puis, l'idée de mettre un prix, c'est aussi de sensibiliser en disant, en fait, c'est de la matière, ça a de la valeur. Et tu vas pas prendre ça pour stocker chez toi et puis en fait tu t'en serviras jamais et tu le mettras toi-même à la poubelle. C'est vraiment pas l'idée et c'est pour ça aussi qu'on encourage, ce que disait Paul au début, on encourage nos adhérents à re-ramener la matière première derrière.
On arrive à la fin de l'émission, je vais vous laisser conclure si vous aviez un petit mot de la fin.
Moi j'ai juste
une question dernière.
Une dernière question avant la fin, on a encore 3 minutes que j'essaye de poser à chaque fois, c'est... Vous travaillez dans le réemploi, donc vous êtes un petit peu écolo. C'est quoi votre vision de l'écologie en très court, du coup, pour 3 minutes. Mais disons, quelle est votre implication première dans votre vie personnelle, au-delà de votre implication professionnelle?
Oula, j'en renverse le micro. Moi j'en ai 2-3 assez basiques. Je me déplace avec un scooter électrique, je sais pas si c'est vraiment écolo, mais c'est mieux que la voiture. On a un petit lombricomposteur à la coloc. Effectivement, j'achète plus de vêtements neufs. Mon meilleur ami c'est Vinted, mais c'est des micro trucs. Est-ce que c'est écolo? J'en suis pas sûre. Aujourd'hui, ça va plus passer par, je pense, effectivement, notre engagement à la Réserve des Arts et de se dire aussi, on va accompagner des plus gros. Je milite et je suis pour le petit colibri qui fait sa petite part, et ça c'est trop chouette. Et il faut aussi mesurer, justement, je parlais de la question de la consommation, il faut mesurer nos capacités en tant que consommateur à avoir ce petit geste, mais derrière pouvoir accompagner des grosses structures, des grosses institutions culturelles, des entreprises, etc., à faire ce grand pas de côté, c'est assez chouette.
Ouais, pareil, au quotidien, bon, après, comme tout le monde, hein, je fais mon petit tri, je me balade essentiellement à vélo, même si, Marseille, c'est pas la ville la plus adaptée, mais j'y vais. Et effectivement, tout ce travail de sensibilisation qui va au-delà du milieu professionnel et du temps de travail à la réserve, du fait de travailler là-dedans, c'est déjà essayer d'en parler autour de soi, d'avoir un impact et de sensibiliser les personnes sans donner de leçons ou quoi que ce soit, mais en tout cas montrer qu'il y a d'autres alternatives et qu'il y a d'autres possibilités de travailler et de créer, de consommer.
Et,
voilà.
Et maintenant, le mot de la fin. Quel est le mot de la fin?
Le mot de la fin, je pense qu'on peut parler de la Grande Halle de manière générale. Donc la Grande Halle de la Réserve des Arts, c'est un lieu. On est en train d'essayer de définir qu'est-ce qui est ce lieu, qu'est-ce qui s'y passe. Pas juste une plateforme logistique de réemploi. Il y a de la formation, il y a de la matière, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui peuvent échanger des opportunités de travail, des opportunités d'emploi. Il y a des matériaux, il y a un super bar construit par le collectif Encore. Il y a un très bel espace extérieur. Bref, il y a plein de choses et on vous invite à venir, notamment pour qu'on arrive à déterminer qu'est-ce que c'est que ce plein de choses. On a la chance de pouvoir y être pendant encore quelques années. Venez participer avec nous à l'écriture de qu'est-ce que la Grande Halle de la Réserve des Arts et qu'est-ce que ce lieu, ce tiers-lieu, cette fabrique, ce je ne sais quoi.
Ouais, de même, pour rebondir là-dessus, effectivement, on est sur une création de projet, entre guillemets, puisque l'association existe déjà à Pantin, en Ile-de-France. Mais l'idée, c'est d'effectivement voir les spécificités du territoire, voir les spécificités du local qu'on a, des personnes qu'on rencontre, du lieu, de sa taille, de sa lumière, de son exposition, du contexte, du marché aux puces, des crottes, de l'impasse du pétrole, de tous les gens qu'on rencontre au quotidien et d'essayer de construire quelque chose de différent, d'adapté et d'intéressant.
J'ai un dernier petit mot de la fin parce qu'on n'en a pas parlé. J'aime bien toujours en parler, mais on n'a pas parlé de notre super colloque. Dans nos ateliers, on les copartage avec Pikip. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui fabrique des enceintes basse consommation qui sont alimentées par des panneaux solaires. Donc ça veut dire que en n'importe où, n'importe comment, hyper facilement, mais juste grâce à l'énergie du soleil, on peut envoyer du gros son. Et ils les fabriquent en grosse partie à la Réserve des Arts et l'autre partie à ICI Marseille. Et on est ravis de partager avec lui et d'avoir ce beau projet avec nous, de montrer bah, voilà, c'est quoi l'éco-conception, c'est quoi fabriquer de la matière première issue du réemploi et vers quoi on peut aller dans plein de corps de métier.
Ouais. Leçon de demain, Made in Marseille.
Merci à vous. Je rappelle que l'émission sera rediffusée demain, jeudi 8 avril, de 9h à 10h. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée.
Merci.